Il est quand même étonnant de pouvoir établir un lien entre notre histoire et la relativité restreinte, cette masse relativiste remarquée par cette théorie se distinguant de notre parcours. Ainsi, pour être de ce qui ne saurait être, rejeté comme nous l'avons été de cette réalité générale dominant notre dimension, notre insistance à nous vouloir réels autant que ce qui est, nous conduit à redoubler d'efforts au fil d'une contribution exigeant de nous sans cesse davantage, ne serait-ce que pour se maintenir. Cette finalité générale qui nous incarne à présent est relativiste. Plus sa masse pour avancer augmente, plus on se doit de l'augmenter pour qu'elle avance. À partir de ce constat, il ne faut pas être un génie pour admettre que ce processus, par définition, est autodestructif. En règle générale, lorsque vous décrivez un problème, on attend de vous qu'en simultané, vous présentiez en opposition à ce même problème une solution, tellement que beaucoup n'hésiteront pas à exiger de vous que vous fassiez silence si à l'égard de ce que vous exposez, les parades venaient à manquer. Il est une historiette cocasse racontée notamment dans les milieux scientifiques, disant que Jean-Paul II, lors d'un échange organisé avec Stephen Hopkins, proposa à celui-ci un genre de deal, invitant l'astrophysicien à se concentrer sur ces événements apparus après le Big Bang, même si cet « après » signifié par le Saint-Père à propos du Big Bang pose déjà question, pendant que les troupes du Vatican, accompagnées de leurs ouailles sur l'ensemble du globe, accorderaient leur attention sur ce qui se déroula avant le Big Bang, cet avant-là étant tout autant sujet à caution. Bien sûr, on peut rire de cette réflexion, si l'on s'empresse de ne pas trop s'arrêter à ce qu'elle prétend, savoir que certains d'entre nous répondront à certaines interrogations, quoi qu'il en coûte, sans admettre que ces réponses qui ne sauraient en être vaudront à ceux qui les promulguent de les alimenter sans fin et en moyen, ne serait-ce déjà pour que ne se remarque pas d'elles ce peu de consistance qui les caractérise par définition. À ce propos, trois possibilités de réponse se distinguent entre nous. Deux sont d'ordre rationnel, sans pour être systématiquement scientifique. Elles consistent à formuler soit un constat mûrement réfléchi, obéissant de logique, lui délivrant de quoi tenir debout, soit de s'abstenir pour ne pas posséder les éléments voulus pour atteindre une conclusion à ce point arrêté. La troisième possibilité se moque bien de ce que la réalité ici-bas décide, en relatant des affirmations, en l'occurrence ne reposant sur rien. Mais pour certaines d'entre elles, une stratégie est employée pour permettre à ces éventualités hors sol de perdurer, en usant de cette absence rattachée à ces preuves dites contraires, voulant ainsi qu'il soit aussi impossible de prouver que Dieu existe qu'il n'existe pas. Par cette méthode, ce qui ne saurait être, cet écart fondamental avec ce qui est, et dont nous sommes sur Terre les représentants, se manifeste jusque dans nos raisonnements, par un principe pouvant se faire infini et transitant par le déni d'un déni, se faisant rapidement pour être consolidé déni du déni d'un déni, et ainsi de suite, jusqu'à la désintégration de celui rendant grâce à ce principe.